Bienvenue à cet apéro parlant numéro 3, mais qui clôture le cycle de ces apéros parlants. Vous savez que demain, c'est le dernier jour du festival Vienne en Goguette. Je rappelle que on a souhaité ouvrir des espaces de discussion autour de divers sujets. On a abordé le sujet de l'économie sociale et solidaire juste hier en questionnant sa place dans le Blésois avec des échanges riches menés par des assos ou des entreprises qui justement sont dans un cycle d'économie sociale et solidaire, dans un contexte d'économie sociale et solidaire. Et le premier rendez-vous, l'apéro parlant numéro 1, était consacré au jardin partagé. Même cas de figure, plusieurs cas, plusieurs expériences avec une belle surprise, une belle rencontre avec les jardins de Mont-Demain, voilà, à Mont-Préchambord. Une expérience riche. Donc là, on sortait du sujet de la nature en ville pour aller dans une ville proche de Bois, une plus petite ville, mais plutôt en milieu rural. Ce soir, l'idée était autour de cet ouvrage qui est sorti en mai. En avril, voilà, en avril de cette année, en avril de cette année, cet ouvrage qui a été réalisé, qui s'appelle Contre-champ, les paysans reprennent la main. Alice Hénaudeau, en tant qu'auteur, et Cyril Chigaud, photographe, sont partis à la rencontre d'agriculteurs qui sont dans une démarche d'agriculture, comment dire, oh, aidez-moi. Voilà, paysanne alternative. Merci. L'agriculture paysanne alternative, en faisant un focus justement sur des paysans qui sont dans le circuit déjà depuis quelques années et qui expriment leur conversion justement, plus récente pour certains et passée pour d'autres. Et puis aussi le parcours de jeunes qui ont décidé, souhaité se diriger vers cette agriculture paysanne alternative en reprenant des exploitations. Et voilà, c'est ce que ce bouquin raconte avec de très beaux portraits, de très beaux portraits. Et évidemment, un rédactionnel très bien mené, enfin, une véritable aventure humaine aussi, ce que j'ai cru comprendre en lisant le bouquin. Et puis en vous accueillant aussi dans un autre lieu il y a quelques mois et en découvrant votre travail. Donc ce soir, on accueille Alice Hénaudeau et Cyril Chigaud. Et également un couple de... Ah non, pardon. Un coup, si. Un couple de repreneurs, mais voilà, un duo, pardon. Voilà. Un duo. Et là, j'ai mis les pieds. Le plat est là. Je ne suis pas tombé juste à côté, je suis vraiment tombé juste dedans. Voilà. Le bon plat. J'ai envie d'offrir la parole à Alice et puis à Cyril, éventuellement, pour... nous parler un peu de cette démarche et comment est né ce travail et cette recherche et quel a été le déclencheur pour créer ce bouquin.
Merci Nash. Ce livre, en fait, il a vu. Alors bon, il a demandé 3 ans de gestation et il est né parce qu'on travaillait tous les deux ensemble et qu'on était intéressés par les problématiques agricoles. Et en fait, alors c'est toujours un peu l'anecdote, il se trouve qu'on a commencé à en discuter en février 2016, au moment du Salon de l'agriculture, discours catastrophiste sur l'agriculture, comme tous les ans au moment du Salon. Et nous, on rencontrait par ailleurs, par nos différents reportages, des gens qui, eux, vivaient correctement de l'agriculture. Et donc, on s'est dit, on va aller à la rencontre de ces gens-là. Des gens qui n'ont pas, qui vivent de leur métier, qui en vivent bien, qui dégagent un salaire, qui payent des impôts, qui sont heureux dans leur métier et qui peuvent peut-être, et pour comprendre un peu quel est leur modèle économique et comment ils fonctionnent pour pas être justement dans ce discours catastrophiste habituel. Et donc on est parti. Alors c'est un projet qu'on a mené à l'échelle de la région Centre. Et on est allé voir, on a alterné les portraits d'agriculteurs et ce qu'on a appelé des focus sur tout ce qui structure cette filière agricole alternative. En fait, notre question, c'était de savoir si ces gens-là étaient vraiment des gens alternatifs ou si il y avait une réelle filière agricole à côté qui se constituait. Et nous, c'est ce qu'on a découvert à travers ben, justement des gens qui passent pas par la grande distribution, qui passent pas par l'industrie agrochimique et qui dessinent un autre modèle. Voilà.
Cyril, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à travers ton regard de photographe justement et ta participation à ce projet? Elle a pris la forme évidemment d'un reportage photographique. Et tu peux nous parler de ton approche quant à ces personnes que tu as rencontrées, ces paysans, ces agriculteurs?
On a travaillé distinctement avec Alice. Bien sûr, on parlait des sujets ensemble, mais après, on se rendait sur les fermes distinctement. Alice, elle prenait un temps plutôt en hiver, quand les paysans avaient plus le temps de parler, de discuter, de raconter un peu leur histoire. Et puis, pour la photo, on était parti sur l'idée de faire une journée à la ferme, un petit peu, de les suivre dans leur quotidien. Alors, après, on a un peu triché, par exemple, pour la ferme de la Guilbardière, j'y suis retourné deux ou trois fois, parce que bon, des fois, on arrive et il y a des imprévus, et ça ne se passe pas vraiment comme on pensait. Et le parti pris photographique, c'était ça, c'était de les montrer au travail et puis aussi de casser un peu. Il y a quelques fermes où on voit des images assez cliniques, où ils sont dans des laboratoires ou de découpe de viande ou de transformation de fromage. Et c'est la réalité, hein, ce n'est pas une réalité truquée. Les fermes sont belles, c'est moderne, il y a quelque chose de moderne qui se dégage de ces photos dans la façon de travailler. Et ça, c'était un parti pris pour casser un peu aussi l'idée, enfin ce qu'on entend des fois quand on parle de ces agriculteurs paysans alternatifs, que c'est des babacools qui il y a cette image d'Épinal qui est restée des années 70 ou 80, et en fait qu'on a voulu casser en montrant que non, au contraire, c'est des gens souvent très bien formés, très experts dans leur domaine, et qui, au contraire, donnent une image positive et moderne de l'agriculture. Voilà.
Alors, et si, justement, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on a présenté le bouquin au Café Fluxus, de la Fondation du Doute, et on a accueilli justement... Les paysans et exploitants qui aujourd'hui ont passé la main. Est-ce que c'est en cours? Il y a un tuilage là qui se fait, d'accord. Et moi, je suis très content aujourd'hui d'accueillir justement dans le cadre de ce tuilage les repreneurs. Et est-ce qu'on peut avoir, est-ce que vous pouvez vous présenter ce duo de repreneurs? Alors, je crois qu'il y a Mélanie et Mathieu. Voilà, Mathieu, Mélanie et Mathieu.
Alors en fait, on est encore plus qu'un duo parce qu'on est cinq. Je ne sais pas comment on dit à cinq.
Un quintet.
Ouais, on a un quintet. Ouais. Donc on est cinq à reprendre la ferme de la Guilbardière. Là, ça fait... en gros, on est dans une période plus ou moins longue, plus ou moins différente pour chacun de transmission avec Gilliane, qui sont les paysans actuels depuis une trentaine d'années. Et voilà, et ça fait un an et demi maintenant qu'on est sur ce projet, que le groupe est constitué sur ce projet. Je ne sais pas s'il faut aller loin sur la...
Si, on peut, on est là pour ça. En fait, la Guilbardière, initialement, c'est une ferme qui produit du lait, et qui transforme du fromage, différents produits. Mais est-ce que vous reprenez cette filière-là ou est-ce que vous développez d'autres filières, justement, à partir de cette ferme-là? Quelle est votre idée, en fait?
Vu qu'on est cinq, effectivement, on va un petit peu développer. On garde la base du projet. Donc, c'est une ferme qui est en bio depuis 30 ans aussi et qui produit des produits laitiers à partir de lait de vache. Donc, en vente directe et via une laiterie aussi. Donc, on vend du lait cru et de la faisselle. Voilà. Et du coup, il y a aussi pas mal d'accueil pédagogique sur la ferme. Donc, il y a beaucoup d'accueil de scolaires qui viennent une à deux fois par semaine. Enfin, grosso modo, il y a deux journées par semaine qui sont réservées à l'accueil pédagogique. Donc ça, c'est les activités qui sont sur la ferme aujourd'hui avec l'intitulé « Ferme de la Guilbardière ». Et ensuite, depuis 5 ans déjà, il y a une nouvelle personne qui est arrivée sur le lieu et qui a créé une entreprise de pâtes, donc de nouilles. Ça s'appelle le Barbu. Et du coup, à partir du blé qui est produit sur la ferme et aussi de farine qui, au départ, il devait se fournir en farine à l'extérieur. Maintenant, ça, c'est du blé exclusivement produit sur la ferme. Il produit des pâtes sèches et des pâtes fraîches depuis 5 ans maintenant. Donc, il y a ces deux entités juridiques différentes qui coexistent sur la ferme. Et moi, depuis le mois de mars de cette année, du coup, j'ai mis en place une nouvelle activité en étant hébergée par une coopérative d'installation. Du coup, je teste une activité autour de la production et la transformation de plantes aromatiques et médicinales. Voilà, du coup, à terme, l'idée, c'est que la structure qu'on va créer puisse fusionner toutes ces activités-là. Et du coup, Mathieu peut présenter ce qu'il fait sur la ferme aujourd'hui, vu que j'ai commencé.
Oui, donc on sera 5 à terme installés. Et sachant que dans ces personnes-là, donc il y a Mélanie qui teste son activité sur place. Il y a Bertrand qui fait déjà ses nouilles. Et ensuite, il y a Melaine et moi-même qui sommes salariés plutôt pour la partie élevage et culture. Donc Melaine depuis 3 ans et moi depuis 2 ans. Donc voilà, on arrive en terrain quand même déjà connu. Et donc, on part sur une base un peu solide, au moins en expérience autour de l'activité principale qui est l'élevage et les cultures. Voilà.
Très bien. Alice, est-ce que tu as envie de poser une question à nos amis
Oui. Moi, Mélanie et Mathieu. Ce qui m'intéressait, du coup, en vous invitant, c'est un petit peu de savoir, vous êtes à peu près tous, vous avez tous une trentaine d'années, je crois, enfin, vous êtes quand même assez jeunes. Et alors, Mathieu, Melaine et Bertrand, il me semble que vous avez une formation agricole, tous les trois.
Alors, Melaine et Bertrand ont fait la même école à Toulouse, une école d'ingénieurs agronomes. Après ça, ils ont tous les deux... Enfin, Bertrand, il a tout de suite... Souvent, il aime à raconter un peu son histoire. Lui, il voulait faire de la politique agricole. Mais avant de se lancer en politique agricole pour vraiment faire changer les choses, il s'est dit faut que j'éprouve le métier et que je fasse du salariat en agriculture. Donc pendant, je crois que c'est 2-3 ans, voire un peu plus, il a fait de très nombreuses expériences à droite, à gauche, dans toutes les cultures et les productions possibles. Et après, il s'est dit, il faut que je fasse du coup, j'ai envie d'être entrepreneur, d'avoir mon entreprise, donc je vais me lancer dans un produit de première nécessité. Il avait pensé d'abord au pain, et en fait, il s'est dit, il y a déjà pas mal de gens qui font du pain, qu'est-ce que je peux faire à partir de farine? Et là, il a repensé à une de ses expériences, il s'est dit, les nouilles, banco, je fais des nouilles. Donc voilà, il est parti de ça pour en venir aujourd'hui à une installation en collectif. Et Melaine, lui, après ses études, il a travaillé en tant que technicien agricole ou en tout cas conseiller en agriculture biologique en Mayenne. Et voilà, après avoir conseillé, il s'est dit plutôt faire quoi, plutôt que conseiller. Et donc voilà, lui aussi, il est parti en salariat agricole. Et finalement, moi, j'ai un peu le même parcours. Pendant 6 ans, j'avais fait des études en agro-environnement. Pendant 6 ans, j'étais chargé de mission en agro-environnement. Donc, j'allais voir les agriculteurs pour les conseiller sur l'environnement et l'agriculture, essayer de concilier les deux. Et bon, je me suis dit, c'est bien ça aussi, mais autant le faire moi-même sur une ferme et de concilier l'agriculture et l'environnement dans un projet agricole, quoi. Donc, voilà, on a tous des solides comme des bagages en agriculture au travers de nos études et aussi au travers de nos expériences de salariés. Et aujourd'hui, on a envie de passer à l'action en tant qu'entrepreneur, quoi, que paysan.
Petite précision, on parle la ferme, on parle de quoi comme surface d'exploitation? On est sur quel rapport?
Donc Anne-Gilles, très longtemps jusqu'à ce printemps-là, donc ils avaient 70 hectares et 35 vaches. Et Donc ça, quand on parle de surface et d'animaux, il faut aussi le voir aussi le nombre de personnes qui travaillent sur la ferme pour se rendre compte de ce que ça représente. Et donc, il y avait 4 temps pleins autour de cette activité-là. Donc, si on divise chaque unité, la surface où les animaux parlent, le nombre de personnes qui travaillaient, eh ben, en fait, on se rend compte que c'est des surfaces très faibles, quoi. C'est une vingtaine d'hectares et c'est 7 vaches par personne, quoi. Enfin, donc, certains diraient que c'est ridicule. Mais n'empêche qu'il y avait suffisamment d'argent qui circulait sur la ferme pour rémunérer ces 4 personnes. Au printemps, il y a un voisin qui est parti à la retraite. Donc, on a eu l'opportunité de récupérer quelques parcelles qui sont vraiment voisines à l'exploitation. Et donc, aujourd'hui, il y a 110 hectares. Et donc, pour 5 personnes. Et ces 110 hectares-là, déjà, on a l'impression que ça fait beaucoup, mais c'est pareil, si on reprend le ratio, c'est pas énorme par rapport à de nombreuses exploitations. Et surtout, là, ça faisait 3 ans où l'hiver, on devait acheter du foin parce que des périodes de sécheresse estivale qui vraiment étaient compliquées à passer. Avec ces 37 hectares supplémentaires, on espère être autonome et peut-être développer d'autres activités notamment de meunerie avec des céréales qui seraient transformées sur la ferme. Mais voilà, ça va nous permettre de sécuriser notre système et de ne pas être dépendant des aléas climatiques.
Favoriser le circuit court et l'auto-suffisance d'une certaine manière quand tu as des exploitations développantes.
Et justement, est-ce que les... Alors moi, je voulais juste revenir sur... parce que donc on a dit les 3 garçons avaient un parcours agricole. En revanche, Mélanie et Émilie, pas du tout. Est-ce que tu peux juste nous présenter votre parcours à toutes les deux et moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans l'agriculture en 2019 ? Bon, pour vous, ça va être 2020 officiellement. Quand on a un regard, une société qui estime qu'on est en crise agricole et que l'agriculture française est morte.
Et pourquoi on se lance dans cette agriculture-là, paysanne, bio, et pas dans une agriculture, je sais pas, plus conventionnelle ?
Alors, je vais essayer de faire rapide. Je commence par Émilie. Donc, Émilie, par exemple, elle a fait des études d'urbaniste et du coup, elle a eu pas mal de boulots différents, notamment dans des collectivités. Et après, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête et quel a été l'élément déclencheur, s'il y en a eu un. Mais en tout cas, elle n'avait plus du tout envie de faire ce boulot-là. Où elle n'était pas maître finalement de ce qu'elle faisait et puis à être dans un bureau, quoi. Donc en fait, son idée de départ, c'était de s'associer avec Bertrand, parce que Bertrand, quand il a développé son activité de pâte, il y a un moment où ça commençait quand même à bien démarrer, puis il s'est dit ça me brancherait bien de m'associer pour pas être tout seul. Donc c'était une amie d'amis, donc il proposait pas mal aux gens qui tournaient un petit peu autour. Est-ce que ça vous branche de vous associer avec moi ? Bertrand est assez comme ça. Et du coup, Émilie, ça la branchait bien, donc elle a testé un petit peu. Et ils ont monté un plan d'entreprise pour qu'Émilie puisse s'associer à Bertrand. Et en fait, Émilie a eu un enfant, du coup ça a un petit peu décalé les projets. Et puis ça en est arrivé jusqu'à ce qu'il y ait une question de reprise plus globale de la ferme. Et du coup, Émilie a rejoint le projet en se disant « oui, carrément, moi ça me branche ». Et du coup, là, elle s'est formée. Elle va être plutôt responsable de la transformation laitière, mais aussi des pâtes et aussi un petit peu de l'accueil pédagogique. Elle va vraiment avoir différents ateliers. Et du coup, elle s'est formée depuis une année pour reprendre tout ça, quoi. Voilà un peu pour son parcours à elle. Après, moi, ma formation de base, c'est tout ce qui est éducation populaire, animation, développement local. Enfin, tout ce qui est... J'ai fait un DUT carrière sociale et après, j'ai fait une licence pro agent de développement local. Et du coup, j'ai bossé... J'ai beaucoup bossé avec différents publics, des publics handicapés, des publics scolaires, etc. Et ce qui m'a amené dans le Loir-et-Cher, parce qu'il y a ça aussi, tous les 5, on n'est pas du tout originaire du coin et on vient des 4 coins de la France. et du coup, moi, je suis arrivée ici en postulant à une offre d'emploi pour être coordinatrice régionale d'une association qui s'appelle le MRJC. Donc MRJC, ça veut dire Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne. Et en gros, ce mouvement, il a été créé par des prêtres catholiques avec toute la création de la JAC, la Jeunesse Agricole Catholique. Enfin, en fait, c'est tous ces mouvements qui sont nés au début du XXe siècle, où bah, finalement, c'était les prêtres qui jouaient un peu ce rôle de création de liens sociaux et d'impulsion de collectif, quoi, on va dire. Et du coup, qui accompagnait des groupes de jeunes à se bouger en rural en disant bah, « Allez-y, vous pouvez faire quelque chose pour votre vie, pour améliorer vos conditions de vie. » Et du coup, ça a été un petit peu la même chose avec les agriculteurs et les ouvriers. Du coup, moi, j'ai débarqué dans ce mouvement qui est vraiment impliqué aujourd'hui dans toute une mouvance qui a un projet politique d'une autre société, quoi, pour sauver les campagnes, réintroduire des activités économiques dans les campagnes, avoir une agriculture qui est respectueuse des humains, de l'environnement, du sol, de toute la biodiversité, etc. Et enfin voilà, c'est un projet politique, un projet de société très large. Et moi, c'est ça qui m'a complètement embarquée. Et du coup, j'ai découvert le monde agricole de manière plus profonde par le biais de cette association-là. Et du coup, tout le réseau Impact, ADR, tous ces acronymes qui ne sont pas très buvables, mais en gros qui prônent une agriculture paysanne aujourd'hui, quoi. Du coup, il n'a même pas été question pour moi de m'investir dans une agriculture qui serait autre que agriculture paysanne, biologique, citoyenne. Enfin, on peut lui mettre plein de noms, quoi. Voilà.
Justement, peut-être que tout le monde... petite parenthèse, c'est quoi l'agriculture paysanne? Parce que c'est un mot, en effet, qu'on utilise un peu beaucoup, qui est...
Je pense que chacun a un peu sa définition. Mais après, il y a l'agriculture paysanne qui est vraiment prônée aujourd'hui par une association qui s'appelle l'ADR. Et ça, en fait, c'est pas vraiment une agriculture qui rentre dans des cases, mais c'est plutôt une démarche. Enfin, eux, ils font des diagnostics agriculture paysanne. Donc, en gros, ils ont une petite fleur. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu le logo, mais il y a une fleur. Et du coup, chaque pétale représente un aspect de la ferme. Donc, ça va être l'autonomie alimentaire, ça va être la consommation d'énergie. Enfin, il y a différents trucs. Je sais plus exactement c'est quoi, mais il y a la viabilité financière. Enfin, voilà, il y a tous ces petits pétales. Et du coup, les diagnostics agriculture paysanne, c'est des paysans qui ont envie de changer leur pratique et qui ont envie de faire un état des lieux de ma ferme, elle en est où aujourd'hui? Du coup, il y a une petite animatrice de l'ADR qui vient et puis ils font un gros diagnostic. Et du coup, ça permet de mettre des curseurs en fait sur où j'en suis aujourd'hui dans mon activité agricole et vers quoi je voudrais évoluer. Donc c'est pour ça, c'est pas. Enfin, après on peut lui mettre des mots clés, hein, on est capable. Mais l'ADR en tout cas prône vraiment le côté démarche de. On a envie d'évoluer vers un modèle du coup qui va être respectueux des personnes qui travaillent, qui va. Tu pourras compléter peut-être, mais moi en tout cas j'ai l'impression que c'est prôner un modèle de petite ferme qui est à échelle humaine et avec des associés et des salariés. Enfin, il n'y a pas forcément d'éthique ou de valeur là-dessus, mais en tout cas un système qui est réfléchi et qui est viable et qui propose un projet pérenne, plutôt autonome à l'échelle d'un territoire, centré sur quelque chose de local. Après, bio ou pas bio, du coup, ça ne va pas jusque-là, quoi, l'agriculture paysanne. Mais ouais, c'est en gros petite ferme à échelle humaine, vraiment ancrée dans son territoire, quoi.
Alors, moi, c'est juste le petite ferme qui me dérange. C'est plus une ferme qui crée de l'emploi. Alors, c'est une ferme qui fait 200 hectares, mais qui a 20 personnes qui travaillent dessus, pourquoi pas, quoi. Voilà. C'est juste ça. Après, l'idée, c'est qu'elle soit, ancrée territorialement. Et il y a quand même la notion de respect de l'environnement globalement, ou au moins de tendre vers. Et après, tout ce que tu as dit, c'est ce que je pense aussi, quoi.
Et du coup, vous n'êtes pas fou en vous lançant. Il y a quand même l'objectif, c'est que l'activité fonctionne économiquement. Et c'est des modèles qui sont complètement à contre-courant de l'agriculture actuelle. Qu'est-ce qui vous convainc, à vous lancer dans ce type d'agriculture?
Je vais répondre. moi, ce qui me convainc ou ce qui me rassure, c'est le modèle déjà qui a été construit par Anne et Gilles. Quand on voit 70 hectares, 4 personnes qui travaillent, ils ont développé un modèle qui fonctionne en créant de la plus-value en vendant en direct. Puis après, quand on voit tout le réseau qui est autour pour soutenir aussi ce type d'agriculture, on se dit il y a de l'espoir et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Il y avait un deuxième volet, non ?
Non, mais c'était...
Voilà. Et après, ce qui me rassure aussi à titre personnel de me lancer dans cette aventure-là, c'est justement qu'on soit un collectif de 5 personnes. Donc d'être sur une ferme et de pouvoir échanger, de pouvoir se remplacer, de se donner des coups de main et de ne pas être isolé. C'est le modèle, le fils reprend la ferme du père tout seul. Je pense qu'il a fait son temps. Aujourd'hui, on aspire à autre chose, avoir du temps libre, pouvoir se libérer, avoir des relations sociales. Et c'est pour ça que en collectif on est quand même un peu plus fort de ce côté-là, quoi.
Non, je me permets juste en fait de rebondir parce que ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai rencontré Anne et Gilles et ce qui ressort dans le portrait, c'est que d'emblée quand Gilles s'est lancé dans les années 80, d'emblée il voulait prendre des vacances et avoir des week-ends tout en étant éleveur, ce qui, je pense, pour plein d'agriculteurs, semble complètement paradoxal. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique de leur ferme. Et ils ont toujours voulu avoir des salariés.
Et on a conservé cette marque de fabrique. Mais dans nos fondements, on s'est dit, on vise 5 semaines de vacances par an.
Un week-end de temps en temps.
Un week-end sur 3.
Et ça, justement, la reprise... La reprise en collectif, qu'est-ce qu'elle... J'avais entendu parler, avant de vous connaître et de connaître le projet d'Anne et Gilles de transmettre à un collectif, j'avais entendu parler du collectif de Belêtre qui est dans l'Indre-et-Loire, qui est aussi des jeunes qui se sont... ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont allés plus loin parce qu'ils ont monté une SCOP. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle démarche. Est-ce que vous connaissez, c'est une tendance de reprendre en collectif comme ça plutôt que de se lancer tout seul.
Mais en fait, je pense qu'il y a une tendance qui est liée au fait de ne pas avoir envie de s'isoler, que ce soit en rural, parce que en fait, il y a des campagnes qui sont encore vivantes, mais il y en a qui le sont quand même plus beaucoup. Du coup, il y a cette envie de ne pas être isolé. Et puis, il y a aussi finalement, le boulot d'agriculteur, ça prend quand même beaucoup de temps. Et du coup, d'être tout seul, isolé à travailler, c'est quand même un peu plombant, quoi. Donc, au final, d'être en collectif, c'est quand même, ça a ce côté hyper rassurant. On porte un projet ensemble. Ce qu'on disait sur le fait de pouvoir se dégager du temps libre, etc., d'être en collectif, du coup, ça permet vraiment ça. Mais c'est sûr que c'est une tendance qu'on voit. Après, on voit des expériences collectives qui capotent aussi. Et nous, on essaye de se préparer à ça, à se dire, le collectif... Enfin, c'est pas une ferme familiale où, du coup, t'es en couple et puis tu fais des mômes et puis tu vis sur ta ferme et c'est toute ta vie. Là, on est 5 et du coup, il n'y a aucun couple dans les 5, du coup, finalement, on est 5 familles, avec des enfants ou pas d'enfants, peu importe. Et du coup, on se dit, finalement, ça concerne 10 personnes et encore plus. Et du coup, si à un moment donné, il y a une des 5 personnes qui a envie de partir faire autre chose, il faut aussi qu'on... Maintenant, on a envie d'essayer de se préparer à ça et de se dire, c'est pas forcément un projet sur lequel on va rester 30 ans parce qu'il y a peut-être des envies qui vont évoluer aussi. Et ça, c'est quand même un petit peu... moi, je trouve que ça reste un petit peu compliqué de réfléchir à tout ça parce que là-dessus, c'est quand même un nouveau modèle. On a quand même, par exemple, le fait que tu aies dit un couple. C'est souvent ça, en fait. On se dit, ah oui, mais il n'y a aucun couple dans vous 5. Non. arriver à réfléchir à des scénarios catastrophes en disant on veut que notre collectif il soit assez flexible pour s'adapter aux envies de l'individu et aux aspirations qui peuvent être autres que celles du projet collectif à un moment. On essaye de s'y préparer, après, on verra.
J'ai une question sur la reconnaissance institutionnelle de cette nouvelle forme, le collectif, aujourd'hui. Quand vous allez demander, comme n'importe quel agriculteur, paysan, des aides auxquelles vous devez avoir droit, comment vous vous présentez ? En tant que collectif, en tant qu'agriculteur en votre nom propre, les deux, et donc quelle est la reconnaissance de ce terme de collectif au niveau institutionnel?
Alors, donc là, on a parlé de l'exemple de Belêtre, la ferme de Belêtre là, qui est en Indre-et-Loire. Alors, eux, ils ont fait le choix de se couper de ce système-là agricole et de monter une SCOP, donc vraiment une structure juridique qui est en dehors du système agricole, donc de se priver des aides. Alors après, ils ont été chercher d'autres aides au niveau de la région, enfin d'autres institutions. Nous, on a fait le choix de rester dans le modèle agricole en faisant un GAEC, un groupement d'agriculteurs, d'exploitations en commun. Donc en fait, ça, c'est des outils qui existent déjà dans le monde agricole. Donc, néanmoins, dans ces GAEC-là, on est reconnu comme un agriculteur individuel. Donc, on a le droit à des aides individuellement. Et après, qui sont multipliées par le nombre de parts, enfin, en fonction. Il y a différents fonctionnements pour ces schémas-là. Mais c'est déjà reconnu. Voilà.
Donc, pas de problème particulier, en tout cas. Est-ce que vous avez une envie ou une demande particulière par rapport au modèle que vous construisez qui n'existe pas justement?
Après, moi j'ai l'impression que dans notre fonctionnement, on se rapproche quand même beaucoup d'une coopérative, quoi, d'une SCOP. Dans les 5 par exemple, on est quelques-uns à se dire quand même, si on pouvait être en SCOP, ça pourrait être vraiment cool. Mais on se dit aujourd'hui en fait il y a quand même pas mal d'investissements sur la ferme et puis du coup les aides pour l'installation de jeunes agriculteurs elles sont les SCOP peuvent pas les avoir quoi. Donc on fait le choix du GAEC en se disant ça permet quand même des aides mais on est plusieurs à quand même avoir une aspiration pour le fonctionnement d'une SCOP qui offre autre chose. En fait, dans une SCOP, on a un statut de salarié et du coup, on cotise au chômage. Enfin, on a tout. Il y a quand même vraiment plein de privilèges à être salarié aujourd'hui, quoi. Voilà.
Les retraites aussi.
Les retraites. Il y a plein de choses. Et du coup, forcément, ça fait pas mal réfléchir.
Alors, aujourd'hui, je suis ouvrier agricole, donc je suis en statut d'ouvrier agricole. Mais demain, une fois installé, je serai exploitant agricole. Donc là, je serai comme un dirigeant d'entreprise. Enfin, on sera 4, 5 dirigeants d'entreprise. Mais alors après, les agriculteurs, ils ont eu aussi une mutualité, la mutualité sociale agricole, la MSA, où tu cotises pour la retraite. Mais par contre, malheureusement, aujourd'hui, les retraites agricoles, quand on a 700 euros, on est bien lotis, quoi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le collectif c'est une forme de confort pour pouvoir s'entraider, partager le travail en commun et pouvoir séparer les tâches, quoi. Enfin, séparer mais aussi mutualiser les tâches, quoi.
Je voulais rebondir parce que du coup il y a des nouvelles formes qui se mettent en place, alors les SCOP mais qui sont pas reconnues. Mélanie, toi, pareil pour te former, tu passes par une structure particulière qui est quelque chose d'assez nouveau, qui est une SIAP.
Ouais.
Tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, alors la SIAP, ça veut dire coopérative d'installation en agriculture paysanne. Donc c'est une structure qui est toute nouvelle en région centre. Elle a été créée il y a un peu plus d'un an. Elle existait déjà dans d'autres régions. Donc c'est d'autres régions qui ont accompagné du coup les structures Ardéar, etc. pour créer la SIAP en région centre. Donc en fait, le statut de la SIAP, c'est une entreprise agricole aussi, et c'est une coopérative. Donc en fait, la SIAP, il y a plusieurs coopératives d'activité qui existent déjà dans d'autres domaines, mais pas dans les domaines agricoles. Et là, elle est vraiment spécialisée dans l'agriculture. Et du coup, on est plusieurs entrepreneurs à l'essai, on nous nomme comme ça. Donc voilà. Et en région centre, je ne sais plus, on est une dizaine, je crois, à peu près dans toute la région. Et en fait, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec la SIAP, c'est que du coup, c'est comme un petit matelas, quoi. On est entouré par des gens qui vont nous conseiller sur notre projet, qui relisent. Enfin, du coup, il y a un comité qui sélectionne, enfin, qui accepte ou pas les projets. Donc déjà, quand on a accepté, c'est que il y a déjà eu quelqu'un qui a regardé si ça pouvait à peu près tenir la route. Et puis après, ça nous apporte tout le statut juridique. Donc là, par exemple, moi, la SIAP, c'est eux qui ont qui ont fait le dossier à la DDT pour avoir une autorisation d'exploiter. Enfin, ça, c'est des démarches administratives, mais du coup, c'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui ont fait les démarches avec les certificateurs bio pour négocier et pour que nous, on ait des tarifs préférentiels pour notre certification. Ils ont fait des démarches avec l'assureur. Enfin, c'est tout des trucs où quand on s'installe et qu'on a envie de planter des trucs et de récolter, ça nous emmerde un peu. Quoi.
C'est donc, le principe des coopératives d'activité qui finalement aident, existent déjà dans d'autres domaines, mais sont nouvelles dans le domaine agricole.
Oui, tout à fait.
Ce qui, moi, me semble intéressant, ça veut dire qu'il y a quand même de l'entrepreneuriat en agriculture et que c'est peut-être un domaine qui tend à se normaliser, enfin du moins à prendre les outils qui existent.
Il y a même d'autres outils. Enfin, là, il y a plein d'outils qui aident à l'installation de jeunes agriculteurs, surtout hors cadre familial, en reconversion, parce qu'on est nombreux en fait, dans cette mouvance-là. Et du coup, effectivement, il y avait des formations, mais aujourd'hui, qui ne sont plus financées, qui étaient faites par l'ADEAR, que nous, on a eu la chance de faire. C'était la dernière promo, qui s'appelle « De l'idée au projet ». Donc, c'est vraiment quand on commence à avoir des petites idées, mais qu'on se dit bon, comment on va mûrir tout ça pour que ça tienne un petit peu la route. Et du coup, c'était 8 jours de formation, mais qui sont hyper intéressants, qui permettent vraiment de remettre les choses dans le contexte, à dire bon, tu rêves pas juste d'avoir un potager en un petit peu plus grand, mais si tu rêves juste d'avoir un potager, tu t'en rends compte là, puis tu dis bon, ok, c'est pas pour moi, mais sinon ça te fait franchir une étape. Et aujourd'hui, il y a un autre dispositif qui s'appelle le stage paysan créatif, et qui est financé par la région. Et en fait, c'est un dispositif qui dure 1 an et qui permet de faire des stages presque en illimité, enfin vraiment des stages un petit peu partout, d'éventuellement exploiter sur ces terres si on en a déjà, et qui après permet de se former. Et aussi, il y a des sessions de regroupement avec plein de gens de la région pour échanger sur son projet. Donc ça, c'est aussi un nouveau dispositif qui est trop bien quand on est un petit peu éloigné de tout ça au départ et qu'on cherche comment faire évoluer son projet d'installation. Quoi.
Avant de passer la parole peut-être au public, moi j'ai une question sur est-ce que vous diriez que politiquement, aujourd'hui, le cadre politique favorise l'installation, dans ce que j'entends, il y a un peu de ça je pense avoir la réponse, mais je voudrais aller plus loin. Est-ce que cela favorise l'installation de jeunes agriculteurs, voilà. Mais surtout, est-ce que ça favorise aussi cette idée d'agriculture alternative, bio, qui préserve la nature, l'humain, les sols?
Moi, je dirais que ça dépend à quel échelon, peut-être. Enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que dans l'agglomération blésoise, on est quand même, puis en région centre, on est quand même assez bien lotis sur ces politiques-là. Enfin, moi, par exemple, enfin, c'est pour donner un petit exemple, le Aglopolis, en fait, il m'accompagne parce que du coup, dans ma production de plantes, je fais de la culture, un petit peu de cueillette sauvage. Et en fait, c'est une personne du Pays des Châteaux qui m'a conseillé de contacter, enfin, qui a calé une réunion avec des techniciens d'Aglopolis et de la Chambre d'agriculture pour que je puisse avoir accès au foncier qui est libre sur un territoire à 30 km autour de la ferme pour avoir des zones de cueillette où je puisse aller. Enfin, et moi, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Enfin, du coup, là, c'est vraiment en marge. Enfin, faire de la cueillette sauvage, enfin, on ne peut pas dire que ce soit très... Enfin, très commun, quoi. Et enfin, du coup, voilà, c'est une bribe de réponse. Après, je sais pas trop.
Alors, je vais donner mon avis. Je sais pas si c'est le... voilà. Je pense que le cadre le permet, les outils existent en région centre, mais dans les autres régions aussi, parce que ces structures d'agriculture alternative, elles sont présentes dans toutes les régions, avec plus ou moins de moyens humains, mais elles existent partout. Néanmoins, d'un point de vue un peu plus politique, le modèle dominant, il est encore très présent. Et quand on veut justement se démarquer, quand on veut faire une agriculture paysanne, quand on transforme à la ferme, tout de suite, on nous colle des réglementations qui, elles, sont adaptées à de l'agro-industrie. Et du coup, là, on se retrouve vraiment un peu coincé par des mesures de biosécurité, d'hygiène. Et il faut se battre au jour le jour. Enfin, Anne et Gilles, ils ont fait ça depuis le départ. Il y a beaucoup de trucs. En fait, c'est des réglementations où on te demande de tenir la chaîne de froid. Donc, c'est du moyen, pas de la... Une obligation de résultat plutôt que de moyens. Donc il faut se battre à tout le temps veiller à ce qu'on puisse faire notre truc avec des petits moyens. Quoi. Donc oui, les outils existent, le cadre existe, mais voilà, le modèle dominant il est présent et il n'aide pas forcément à ce type d'agriculture à se développer là.
Est-ce que vous pensez que c'est un de vos combats à vous, même si Anne et Gilles ont déjà... Est-ce que c'est votre combat aussi maintenant et qu'il y a encore des choses à aller chercher dans ce sens-là ?
Ouais.
Est-ce que vous êtes optimiste ?
Ouais, alors oui, on est optimiste. Et en tout cas, on va continuer dans ce sens-là, oui, à défendre cette agriculture paysanne de proximité qui puisse être présente sur les territoires et aller un peu à l'encontre de l'agrandissement des exploitations, de toujours plus d'hygiénisme. Voilà. On a à cœur aussi de se battre de ce côté-là et de militer dans les groupes qui sont nécessaires. Quoi.
Et si on offrait la parole aux gens qui nous entourent, allons-y, avec grand plaisir.
Merci. Quand vous avez repris l'activité, est-ce que les terrains étaient toujours en culture ?
Nous on va reprendre qu'en février, là on s'installe en février. D'accord. Mais oui, l'exploitation continue et Anne et Gilles, ils font en sorte que la ferme elle tourne comme avant et qu'ils nous transmettent un outil en production
ils ont été en terrain bio.
Depuis 30 ans.
Ah d'accord, d'accord. Je pensais que c'était une autre agriculture avant et que vous passiez en bio derrière eux.
Non, nous, on fait perdurer un système déjà bien en place.
D'accord, merci. Bon courage quand même à tous.
Merci.
Oui.
Oui. Je me dis, je vais quand même dire un petit mot par rapport au babacool. Parce que je trouve que c'est vraiment un cliché. Bon, moi, j'étais jeune dans les années 70 et je fréquentais un milieu d'étudiants ingénieurs agronomes. Et plusieurs d'entre eux se sont installés pour élever des chèvres, en particulier dans le Forez et dans les Corbières. Voilà. Mais c'était des gens très organisés. Simplement, c'était beaucoup moins encadré à l'époque. Hein, donc, il y avait beaucoup moins de réglementation, disons. Mais disons qu'ils se débrouillaient très bien. Et ce n'était pas du tout l'image très caricaturale qu'on en a. Voilà. Donc, je tenais à faire un petit point d'histoire, on va dire.
Est-ce que c'est l'image aujourd'hui qu'on a ? Enfin, quelle est l'image que cela renvoie, on va dire ? Je suis pas sûr. On est loin aujourd'hui de cette image, je pense, de babacool. Non.
Non, c'est parce que tout à l'heure, c'était un petit peu pour dire oui, les babacool, c'est un peu l'image qu'on en a à l'heure actuelle de gens complètement. Voilà, je veux dire, effectivement, il y avait des gens. J'ai envie de dire très marginaux, encore que pour moi ce ne soit pas un terme péjoratif, hein, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient très formés, qui étaient des ingénieurs, etc., et qui ne voulaient pas être dans cette société de consommation à outrance. Ceci dit, je voudrais quand même dire un truc, c'est vrai que vers la quarantaine, ceux que j'ai connus se sont reconvertis vers des métiers beaucoup plus conventionnels. Mais à l'époque, comme actuellement, on ne pensait pas tellement, et moi non plus, hein, on ne pensait pas tellement à la retraite, hein, je dois dire.
Oui, c'est moi qui ai utilisé l'image de babacool. C'est vrai que c'est peut-être pas l'image que... je pense que c'est une image qui perdure, notamment quand on s'adresse à des agriculteurs conventionnels. Moi, j'en ai dans ma famille, etc. Des gens qui font pas comme les paysans qu'on a rencontrés dans le livre et qui, malgré tout, ont quand même... c'est pas les gens les plus ouverts. Pourtant, ils ont tous les outils, je pense, pour comprendre et pour voir que leur voisin qui travaille autrement, il travaille bien et qui est déformé, etc. Et souvent, c'est là qu'on trouve encore cette image un peu d'Épinal. J'ai peut-être un peu caricaturé en disant babacool, ce n'était pas le terme exact, mais en tout cas, qui ont des gros doutes sur la capacité à être productif, à valoriser leur ferme, à gagner bien leur vie, etc. C'est ça que je voulais dire.
Moi, je veux juste rebondir. En fait, c'était l'objet du livre, c'était d'aller à l'encontre. Nous, notre question, c'était... une des questions préalables, c'était de dire est-ce que ces paysans dont le modèle fonctionne sont si alternatifs que ça ? Et nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que c'est des gens, et c'est aussi, on est allé voir des fermes qui sont présentes, ben, notamment à Négil, depuis 86 en bio, qui fonctionnent. C'était aussi une façon de prouver que, non, ces gens-là, ils ont, pour certains, milité, construit un modèle alternatif, mais qui est productif et qui est économiquement beaucoup plus viable que la plupart des entreprises agricoles conventionnelles.
Merci. Alors justement, pour rebondir sur cet argument, une des choses qu'on dit beaucoup aujourd'hui, malheureusement, je dirais, c'est l'agriculture bio ne pourrait pas nourrir le monde et des petites fermes ne pourraient pas nourrir le monde face à l'explosion démographique et compagnie. Et j'aimerais que vous nous développiez, vous, en tant qu'acteur de cette agriculture paysanne sur des petites surfaces et en local, que vous nous fassiez justement certainement la démonstration que c'est peut-être justement cette agriculture-là qui peut nourrir le monde.
En 2 minutes 30.
Cette question-là, c'est vrai qu'elle revient souvent, mais après, c'est tout un modèle d'alimentation, de société qui est à revoir. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir répondre à cette question-là, mais oui, il faut relocaliser l'alimentation, éviter le gaspillage alimentaire, certainement manger un peu moins de viande. Enfin, voilà, on connaît déjà toutes ces alternatives pour qu'on puisse nourrir X milliards d'ici quelques années. Mais voilà, et les agriculteurs paysans seront capables de fournir de l'alimentation de qualité et qui, voilà, et localement. Donc, on a foi en cette agriculture-là. Mais par contre, il faudra qu'on soit appuyé par la société et les citoyens pour que ce soit ce modèle-là agricole qui s'impose. Mais
écoutez, c'est peut-être le moment de clore ce rendez-vous. Merci à vous, Mélanie, Mathieu, de nous avoir rejoints. Cyril, Alice, également. Un dernier mot. Si ce n'est que peut-être le dernier mot, c'est de dire que Contrechamps est disponible. Vous êtes venu avec quelques exemplaires que vous vendez. On est toujours à 20 euros ou on est toujours à 20 euros seulement. 20 euros seulement. 20 euros seulement. Donc voilà, si vous voulez contribuer, bien sûr.
Je peux faire la pub des bouquins. Des bouquins sur l'agriculture, il y en a beaucoup. Et celui-là, la force qu'il a, c'est que c'est des portraits qui sont fidèles. Les photos sont magnifiques. Enfin, les images sont très jolies. Rien à voir. Et enfin, c'est vraiment un bel objet, quoi. En plus d'avoir du fond, et c'est vraiment un bel objet. Donc félicitations.
Je l'ai offert à ma belle-mère et son regard a changé sur moi. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cet apéro parlant numéro 3. Qui clôture le cycle des apéros parlants pour le festival Vienne en Goguette. Merci. On parlait aussi du beau, mais on a le graphiste Fred Chailleux qui a mis en page ce bel objet, voilà, qui a donc participé à la. Et puis il est passé. Vous l'avez tous plus ou moins consulté. Il est passé dans vos mains. Voilà. En fait, une fois touché, on est obligé de l'acheter maintenant. C'est bien une blague, mais en tout cas, il a profité d'un financement KissKissBankBank, un financement dit crowdfunding
et à noter une aide de la région, qui est pas anodine dans la mesure où on a eu cette aide de la région sans que personne à la région ne lise le livre avant, ce qui est quand même intéressant. Ils nous ont fait totalement confiance, donc c'est voilà.
On ne sait pas s'ils l'ont lu après non plus.
On espère.
Donc on peut rappeler l'association, votre rencontre, elle se formalise par une association qui s'appelle Six Pieds sur Terre.
Tout à fait.
Et l'édition du même nom.
Oui, Six Pieds sur Terre et voilà, qui a peut-être vocation à mener d'autres projets. On verra.